Le théâtre de la Manufacture présente Ulster American du dramaturge irlandais David Arlen dans une traduction de François Archambault, comédie noire qui va voir le jour à la Grande Licorne dès demain et ce jusqu'au 13 novembre sous l'égide du metteur en scène, qui est aussi comédien, Maxime Denommé, qui est au bout du fil. Bonjour Maxime Denommé.
Bonjour.
Vous êtes bien sollicité de ces temps-ci, on vous voit partout là.
Oui, oui. Vous ben, soulignez le magnifique travail de Ginette Ferland, qui est notre attachée de presse.
Oui, 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 c'est vrai qu'elle travaille bien, cette Ginette. Oui. On la salue, d'ailleurs. Alors, Maxime, Ulster American, ben, d'abord, le titre est resté en anglais. Pourquoi? Puis ça raconte quoi?
Le titre est resté en anglais parce qu'on trouvait ça plus accrocheur que l'Américain d'Ulster, tout simplement.
Oui.
Ça raconte... C'est un huis clos à trois personnages. C'est... un metteur en scène britannique, un acteur américain, oscarisé dans les AA, un peu sur le déclin, mm-hmm. et une jeune autrice irlandaise qui écrit une pièce et qui est à la veille d'être montée. C'est un huis clos à la veille de la première répétition. Et c'est la première rencontre entre l'acteur américain et la jeune autrice irlandaise.
Ah oui, c'est du théâtre dans le théâtre, donc.
Oui. En fait, le quiproquo, la prémisse, c'est que l'acteur américain a accepté le rôle parce qu'il veut se rapprocher de ses ancêtres irlandais. Mais il va se rendre compte, à un moment donné, dans la pièce, que l'autrice ne se considère pas irlandaise, mais britannique, parce que Ulster est un autre mot pour désigner l'Irlande du Nord. Et lui, il n'avait pas compris ça.
Ah.
Et là, quand il va se rendre compte que son personnage se considère britannique, et protestant, et donc unioniste. Et,
il va déchanter.
Il va déchanter, et au lieu de s'ouvrir à cette différence-là, ben, il va se braquer, puis il va vouloir qu'elle change sa pièce.
Mmh.
Alors, c'est un peu sur les étiquettes qu'on colle sur les gens par rapport à ce qu'on connaît, parce que ça nous rassure, mais que quand la réalité est différente de l'idée qu'on s'était faite, ben au lieu de s'ouvrir à cette différence-là, ben, on se braque et on veut changer la réalité.
Oui, oui.
Ça ne fonctionne pas toujours comme ça.
Le danger de tenir les choses pour acquises.
Oui. Puis aussi, ce qui était intéressant, c'est que l'auteur lui-même, David Arlen, est un peu dans la même situation. Il est étiqueté auteur irlandais, mais toute sa vie, il s'est fait dire qu'il était britannique. Alors, en créant un personnage féminin pour créer son alter ego, ben là, on ouvre aussi à toutes les injustices de genre, parce que la pièce, c'est vraiment beaucoup de m'explication, hein, l'expression française pour mansplaining.
Ah oui.
Alors, on ouvre beaucoup à ça, et c'est ça qui...
Le mansplaining, c'est comme l'homme qui se met au-dessus de tout pour dire, ben moi, je connais la vérité, puis je vais vous expliquer comment ça marche.
Je vais t'expliquer, ma petite fille.
Oui, ma petite madame ou ma belle-fille.
Exactement, mm-hmm. exactement. Et ça, c'est très éloquent, la pièce. Là. C'est une bonne façon pour les hommes de voir, en fait. La pièce est vraiment un miroir là, qui nous met en pleine face nos contradictions et nos comportements. Et c'est ce que j'espère, c'est que les hommes, au lieu de pointer du doigt ou les autres ou rire seulement du personnage, ben, se questionne sur lui-même.
Oui.
Est-ce qu'il se reconnaît dans ces angles morts-là là, qu'on a intégrés loin?
Est-ce que ça vous a fait vous-même faire un genre d'examen de conscience?
Oui, absolument. C'est-à-dire que le travail n'est pas fini, là, mais c'est juste qu'on se rend compte de plus en plus, même moi, quand, mettons, je coupe la parole à par exemple, mon assistante, je me rends compte, excuse-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu sais, céder la parole?
Oui, oui.
aux femmes.
Avoir de l'écoute.
Avoir de l'écoute active plutôt qu'une surdité défensive.
Ah, c'est bien dit, ça.
Les hommes, oui, j'ai lu là-dessus, puis je m'intéresse à ça. Ça, c'est une expression de Francis Dupuy-Déry, qui est un allié des féministes, qui écrit beaucoup sur ça. Alors, surdité défensive, ça m'a beaucoup parlé, mm-hmm. parce que c'est ça un peu le systémique, hein, c'est que c'est jamais de notre faute. C'est là. Mais si tout le monde se déresponsabilise, il n'y a jamais d'avancée.
Oui.
Okay, il faut prendre conscience de nos propres angles morts.
Alors, est-ce que vous avez, en disant ça, est-ce que vous avez peur de faire fuir un certain nombre de gars qui n'ont peut-être pas envie de se faire faire la leçon?
Ah, oh, j'espère que non. En même temps, c'est pas nécessairement un procès de tous les hommes, là. Je dis, il n'y a pas de bon ni de méchant. Tout le monde a une faille. Même la jeune autrice, elle n'est pas une sainte non plus. Tu sais, elle veut être connue. Elle veut se servir aussi de l'acteur américain pour aller aux États-Unis puis pour se faire présenter des réalisateurs. Alors, c'est pas juste un procès d'homme non plus, là.
C'est ni noir, ni blanc, ni noir. Là.
Non, c'est ça. C'est gris.
C'est du gris et c'est du grave aussi. C'est du lourd, mais on parle d'une comédie noire. Est-ce que c'est la première fois que vous montez, que vous faites la mise en scène d'une comédie noire?
Non, c'est même... J'avais touché à du Dennis Kelly à la licorne avec Après la fin et Orphelin. J'aime beaucoup ce procédé-là. On dit comédie noire, en fait, c'est parce que on véhicule des messages importants, nécessaires, mais on le fait par l'humour.
Ouais.
Alors le message passe mieux parce que pendant une bonne partie de la pièce, on rit beaucoup, puis tranquillement le rire devient un rire jaune.
Mm-hmm.
Et
ça arrive souvent, ça, dans les pièces présentées à la licorne. Hein? On passe du rire au rire grinçant, puis au malaise, puis au... de toutes les couleurs,
oui,
finalement.
Exactement, puis au malaise. Puis le fait que les gens se sont détendus, ils sont comme plus ouverts et vulnérables à ce que le message leur parvienne, soit violemment ou peu importe, là, de façon réflexive. Mais...
Est-ce que c'est un plaisir pour vous de faire ce genre de mise en scène-là, avec ce genre théâtral-là?
Ah oui, vraiment un grand plaisir. Puis je pense que ce que je fais de bien, c'est de rien ajouter, juste de mettre en lumière le texte tel qu'il est, de le monter comme une partition musicale avec des temps, des silences, des malaises, mais j'essaie vraiment de rester fidèle à la ponctuation de l'auteur.
Mm-hmm. L'auteur qui a été traduit par François Archambault.
Oui, parce que c'est important aussi dans le processus de trouver la bonne personne pour traduire l'auteur. Je me souviens, avec Mark O'Rourke, c'était Olivier Chouanière. Avec Denis Kelly, c'était Fanny Britt. Là, dans ce cas-ci, avec David Harland, c'est François Archambault. C'est... qui se connaissaient déjà, hein, qui s'étaient déjà traduits mutuellement des pièces,
oui,
avec un événement que... Québec-Écosse, là, qui est... Il y a une espèce d'échange avec notre dramaturgie québécoise et la dramaturgie du Royaume-Uni.
Mm-hmm. Avec la pièce « La Bienheureuse » en français.
Mm-hmm.
Ouais.
Mm-hmm.
Alors,
c'est un grand plaisir. J'adore faire ça.
Et vous adorez aussi jouer. Est-ce que ça vous tentait d'être aussi sur la scène dans cette pièce-là?
Non. C'est parce qu'il y avait... C'était pas pour moi.
Non.
Pour moi, le casting est vraiment primordial. À partir du moment où t'as un bon casting, pour moi, il n'y a même plus question de personnage. Là.
Le personnage,
c'est la personne. Alors,
parlez-nous-en du casting, de la distribution.
Oui. Pour l'acteur américain, on cherchait qui a la stature et l'envergure d'un acteur américain. C'est qui notre Brad Pitt ou notre Mickey Rourke?
Mm-hmm.
Alors, David s'est imposé. Là. C'est un
vieux
complice.
David Boutin.
David Boutin, oui. Pour moi, il était capable d'autodérision aussi parce qu'il est capable d'humour. Puis,
il va être content d'être comparé à Brad Pitt?
Oui. Mais ça allait de soi que, en tout cas, c'était vraiment pour lui.
Oui.
Pour le metteur en scène, j'ai choisi un autre vieux complice aussi qui était dans ma classe, dans ma cohorte au conservatoire,
oui?
Frédéric Blanchette, vieil ami.
Qui fait aussi de la mise en scène.
Qui fait lui-même de la mise en scène, de la traduction. Il est très polyvalent. Et c'est aussi un formidable acteur. Et pour la jeune autrice, on a fait des auditions.
Ah oui.
Pour découvrir qui incarnerait le mieux Root.
Parce que ça allait pas de soi pour ce rôle-là?
Comme c'était plus jeune, je voulais en rencontrer plusieurs pour découvrir des nouveaux visages. Puis je suis vraiment content d'avoir fait ça parce que j'ai découvert Lorraine Hartley qui était une... C'est vraiment une bombe, là. Elle s'est imposée, là. Elle a tout pour... Elle a la force, mais la détente, le charisme, l'intelligence du texte. Elle n'a pas besoin de rien forcer pour que le message passe.
Et on ne la connaît pas du tout, alors on va tout de suite embarquer là, dans la proposition. Là. On va oui, croire au personnage aussi. Encore plus facilement, peut-être?
Oui, exactement. Ça aide quand on découvre un acteur ou une actrice, dans ce cas-ci, avec... pour la première fois, on croit d'autant plus au personnage, effectivement, mais en tout cas, elle est très... elle relève le défi haut la main.
La chimie opère entre les trois.
Oh, oui, absolument. Puis c'est pas parce qu'elle se laisse pas impressionner par des acteurs plus chevronnés. C'est vrai, quand on commence un projet, peu importe l'âge de l'actrice ou de l'acteur, on commence tous à zéro. Hein. Fait que,
ouais.
On sent aucunement le décalage d'expérience.
Et cette Lorraine Hartley arrive de d'où?
Elle a fait son conservatoire à Québec, elle a terminé en 2016. On l'a vu au cinéma, elle commence à jouer beaucoup, là, d'ailleurs. Il était temps qu'on la joue parce que là, elle avait de plus en plus d'indisponibilité. Ouais. Elle a joué dans Souterrain de Sophie Dupuis. Elle va jouer dans Mégantic. Commence à tourner, là, à être pas mal populaire. Là.
Ah, bien. Donc,
avoir la carrière qu'elle mérite. Là.
Et de la voir sur la scène, bien, c'est un privilège bien, aussi de voir Frédéric Blanchet et David Boutin également, mais on les connaît un peu plus. Est-ce que pour vous, Maxime Denomé, c'est un plus justement d'être comédien quand on fait de la mise en scène et qu'on est comédien, est-ce que ça aide ou ça nuit?
Ça aide dans le type de pièce que c'est et dans la vision que j'ai du travail, ça aide parce que tout repose sur le jeu de l'acteur. Alors, je les joue avec eux, je m'imagine, tu sais, j'ai mon esprit d'acteur, alors c'est vraiment du... C'est de la nuance.
Est-ce que vous êtes ouvert aux propositions?
Ah oui, absolument.
Ouais.
Il faut absolument, quand on fait de la mise en scène, faire avec ce qu'on nous donne aussi. On part toujours d'eux.
C'est vrai.
Je leur rapproche toujours le personnage d'eux-mêmes. En fait, je leur dis que je ne joue pas de personnage. Je ne veux pas sentir le jeu. Ça tout part d'eux. Alors moi, je dois faire avec eux. Puis ma façon de travailler avec chacun est différente aussi parce que chacun est différent. Mm-hmm. Chacun, tu sais, fait que oui, je pense que le fait d'être acteur dans ce cas-ci, ça aide.
Je veux pas sentir le jeu. J'ai bien hâte de voir la pièce. Est-ce que, pardon, je pense que vous avez un lien particulier avec La Licorne parce que c'est un théâtre où vous avez joué et où vous avez fait des mises en scène. Qu'est-ce que le théâtre de la Manufacture et La Licorne représentent pour vous?
Ah, c'est là que j'ai commencé. C'est comme mon port d'attache. Là. J'ai commencé en 99 avec une pièce succès de Jean-Marc Dalpé, Trick or Treat,
ouais.
Que je jouais avec David Boutin, d'ailleurs.
C'est vrai.
Et depuis, à chaque année, pendant des années, j'avais un rôle à chaque année. Puis j'ai comme suivi toute la espèce de développement de public puis de développement de cette dramaturgie-là du Royaume-Uni que Jean-Denis Leduc, le directeur fondateur, travaillait. Alors, oui, c'est vraiment... c'est comme mon théâtre. Je suis comme en résidence, ce théâtre-là. Puis je fais partie de la famille. Puis j'étais très content que Philippe Lambert... parce que là, Jean-Denis est à la retraite maintenant, mais Philippe Lambert... poursuivi cette lignée-là. J'étais très content qu'il m'offre la mise en scène de ce spectacle-là parce que C'est vraiment un texte bien ficelé. C'est vraiment un beau carré de sable.
Bien, vous donnez envie de découvrir ce dramaturge, David Harlan, dans une mise en scène de vous-même, Maxime Denommé. Et ça se passe donc à la Licorne, dans la grande salle, parce que la petite Licorne est la grande Licorne. À partir de demain jusqu'au 13 novembre, ben, je vous dis là-dessus le mot de Cambronne. Puis j'ai bien hâte de voir cette pièce gisserée cette semaine.
Ah, tant mieux, ben, je le prends.
Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Bonne journée.